Vous écoutez On lit pour vous.
Disparition d'enfants autochtones, une enquête indépendante, un texte de l'Agence France-Presse, paru le 30 octobre 2024 dans La Liberté. Le Canada a l'obligation légale de mettre en place une commission d'enquête indépendante sur les disparitions forcées d'enfants autochtones. Le Canada a l'obligation de mener les enquêtes et de les financer, car c'est lui qui a fait disparaître les enfants, a insisté auprès de l'AFP Kimberly Murray, l'autrice de ce rapport. Entre 1831 et 1996, 150 000 enfants autochtones ont été scolarisés de force, dans un but d'assimilation forcée, dans des pensionnats religieux. Plusieurs milliers n'en sont jamais revenus. Les conditions de vie dans ces établissements étaient extrêmement mauvaises. Les enfants y étaient sous-alimentés, victimes pour beaucoup de violences physiques ou sexuelles, ou encore soumis à des expérimentations médicales, selon un rapport gouvernemental. Kimberly Murray, membre d'une communauté Mohawk, a été mandatée par Ottawa après la découverte en 2021 des restes de 215 enfants enterrés dans la fosse commune d'un pensionnat pour autochtones de l'ouest du pays. Dans son rapport final, elle liste 42 obligations juridiques, morales et éthiques devant être mises en place, dont la criminalisation du négationnisme vis-à-vis des violences survenues dans ces pensionnats. Elle indique également que la commission d'enquête devra être dotée d'un mandat de 20 ans et être dirigée par des Autochtones. Dans ses conclusions, Mme Murray souligne la responsabilité du gouvernement canadien et de l'Église catholique, assurant qu'ils avaient planifié des décès et des enterrements d'enfants sur les lieux de leurs établissements. En se basant sur des documents et photographies d'archives publiés dans un rapport précédent, elle rappelle que les enfants étaient enterrés dans les cimetières des institutions, souvent dans des fosses communes non marquées, parfois creusées par les enfants eux-mêmes. Nombre de ces cimetières et lieux de sépulture ont depuis été négligés, abandonnés et laissés sans protection, ajoute-t-elle. Pour éviter de rendre des comptes, le gouvernement fédéral a adopté une auto-amnistie générale, soutient Kimberly Murray. Ils se sont eux-mêmes protégés, décrit-elle, en prenant notamment en exemple la ratification par le pays de la Convention sur le génocide de 1952. Lorsqu'il l'a fait, le Canada a défini le terme de façon plus étroite que la Convention en excluant certains termes spécifique, dit-elle. La présentation du rapport s'est faite devant une centaine de membres de différentes communautés autochtones à Gatineau, près d'Ottawa, et en présence du ministre canadien de la Justice, Arif Virani. Ce dernier a indiqué qu'il examinerait attentivement ce rapport et ses recommandations, le qualifiant d'étape importante dans le traitement des traumatismes intergénérationnels liés aux pensionnats autochtones. Pour les mères Mohawks, un groupe de femmes qui luttent pour retrouver le corps d'enfants autochtones disparus à Montréal, le Canada doit désormais faire preuve d'une volonté d'agir sans délai, dans le respect du droit international et des droits de l'homme, soulignant que ce rapport révèle un manque de transparence qui perpétue le négationnisme. C'était « Disparition d'enfants autochtones, une enquête indépendante », un texte de l'Agence France-Presse, paru le 30 octobre 2024, dans La Liberté.
Qu'est-ce qui rend le comfort food si réconfortant? Un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. Il y a de ces plats qui, rien qu'en respirant leur parfum, vous font sentir en paix et en sécurité. Il s'agit peut-être d'une tarte aux pommes bien chaude, d'une lasagne au gratin doré ou d'un macaroni au fromage crémeux avec extra morceaux de saucisse? Comment expliquer cette magie culinaire qui rend le monde si merveilleux? Avec un peu de science de la psychologie. Les plats réconfortants sont souvent riches en glucides, en sucre, en gras et en sel. Ces nutriments stimulent le circuit de la récompense, soit la zone du cerveau qui renforce certains comportements essentiels à la survie de l'espèce en générant une sensation de plaisir. Consommer de la nourriture riche enclenche la production de dopamine et de sérotonine, deux hormones du bonheur qui favorisent un état d'esprit positif. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie le succès commercial de la malbouffe. C'est une nourriture qui apaise le stress. Le baume de la cuisine réconfortante est double, puisqu'il sert également de contrepoids au cortisol présent dans l'organisme. Cette substance, surnommée « hormone du stress », active divers mécanismes de survie, comme l'augmentation de la pression sanguine et l'hypervigilance, pour mieux réagir face à un danger, réel ou imaginaire. Savourer un plat familier aide ainsi à retrouver un peu de stabilité et d'équilibre lors d'épisodes d'incertitude et d'anxiété. Un sondage rapporte d'ailleurs qu'au sommet de la pandémie, en 2020, les Américains consommaient en moyenne 5 repas de nourriture réconfortante chaque semaine. Ces plats sont associés à des moments heureux. La nostalgie est un puissant ingrédient. Au-delà de leur influence biologique, les plats chouchous éveillent des souvenirs d'enfance et de repas en famille à une époque où tout semblait plus simple. Servir un pudding chômeur qui suit exactement la recette de grand-maman rappelle de précieux moments en sa compagnie, surtout si elle n'est plus là. Sans remonter aussi loin, les saveurs de la cuisine d'automne vous font peut-être penser à une sortie au verger par une belle journée ensoleillée ou au rituel de sculpter la citrouille d'Halloween. Il s'agit souvent de plats à l'odeur prononcée et persistante. L'odorat est étroitement lié aux émotions et à la mémoire. S'il flaire le pain frais ou la soupe de poulet et nouilles, par exemple, le cerveau peut associer ces parfums familiers à d'autres situations où ils étaient dans l'air. Et comme la cuisine réconfortante nécessite souvent une cuisson lente qui répand ses arômes distinctifs dans toute la maison, cela amplifie ce phénomène. C'est plutôt simple à préparer. La cuisine réconfortante se prête aussi bien à une fête de famille qu'au repas du soir d'un mardi moche sous la pluie. Il est d'ailleurs possible que la version suprême de votre recette préférée nécessite des heures de préparation et une longue liste d'ingrédients secrets, mais que vous la maîtrisiez suffisamment pour vous adapter sans effort aux besoins du moment. Cette simplicité s'avère alors la bienvenue avant même que la première assiette soit servie. La cuisine réconfortante est propre à chaque culture. Ce que les gens considèrent comme étant des saveurs réconfortantes s'étend bien au-delà de la cuisine du terroir et reflète plutôt les habitudes, les rituels et l'héritage culturel de chacun. La lasagne, le spaghetti en sauce carbonara et la pizza sicilienne occupent une place de choix chez de nombreuses familles italiennes. Les personnes d'origine chinoise salivent peut-être à la seule pensée d'un congee. L'Irlande a son ragoût, l'Angleterre son full English breakfast et la Suède ses fameuses boulettes de viande. Ce qui rappelle le bon goût de la maison dépend après tout de l'identité de chaque personne et du peuple auquel elle appartient. C'était « Qu'est-ce qui rend le comfort food si réconfortant? » Un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Le mystère des masses blanches élucidé. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 novembre 2024 dans La Presse. Bonne nouvelle! L'énigme des basses blanches qui jonchent les rives de Terre-Neuve depuis septembre 2024 est résolue. Il s'agit d'une colle industrielle. Mauvaise nouvelle! Elle risque d'avoir contaminé la faune marine, car il pourrait y en avoir 10 fois plus dans le fond de l'eau. Ces amas blancs sont très résistants, mais ils peuvent se fragmenter en frottant contre les fonds marins et les plages, explique Chris Kozak, chimiste de l'Université Memorial de Terre-Neuve, qui a déterminé leur nature avec sa collègue biologiste Hilary Corlett. Ils doivent se désagréger en très petits fragments. Il est presque certain que les poissons et peut-être les oiseaux vont en manger. Selon le chimiste Chris Kozak, la sophistication du polymère, qui était à l'origine à l'état liquide, mais qui est devenu solide en refroidissant, signifie qu'il s'agit d'une colle industrielle. Des barils ont dû tomber à l'eau, commente-t-il. La quantité trouvée sur les plages et le fait qu'au moins 90% doit être au fond de l'eau, puisqu'à l'état solide, le polymère est plus lourd que l'eau, signifie que ce n'est pas simplement un baril tombé d'un quai. Colle industrielle. Les masses blanches ont été signalées à partir du 9 septembre 2024 dans la baie de Plaisance, qui s'étend sur 125 km dans le sud-est de Terre-Neuve. La plage de Gooseberry Cove a dû être fermée temporairement parce que on trouvait de trop grandes quantités de matière blanche sur ses rives. Environnement Canada et Pêche et Océans ont dépêché des enquêteurs à plusieurs reprises en septembre et en octobre 2024. Spécialiste des organismes vivants sur les fonds marins, Mme Corlette s'est intéressée au phénomène. Je me suis dit que j'étais la bonne personne pour déterminer si c'était une éponge ou tout autre organisme du genre. Je suis allé chercher des échantillons. Dès que je les ai vus, j'ai compris que ce n'était pas biologique. Il y avait une forte odeur de solvant et c'était très collant. Et surtout, l'amas s'était formé autour de pierres, donc c'était à l'origine un liquide. La biologiste de Memorial a dévoilé sa conclusion. Les amas blancs étaient d'origine humaine aux médias locaux. Elle a ensuite demandé à son collègue chimiste de faire des analyses plus poussées. Au début, on m'avait parlé d'un liquide utilisé comme isolant dans les réfrigérateurs des navires de pêche. Ça semblait très probable, et comme la substance ne se dégradait pas dans l'eau, je pensais qu'il y avait peu de risques pour la faune marine et les oiseaux. M. Kozak a déterminé qu'il s'agissait d'une colle industrielle parce que l'échantillon ne contenait ni azote ni soufre. Si ça avait été un isolant ou un latex, il y en aurait eu, précise-t-il. Un technicien pétrolier a rapporté que ce type de colle est utilisé pour les tuyaux transportant le pétrole dans les pétroliers dans les plateformes voisines de Terre-Neuve. Ça semble plausible. Certains amas étaient plus sombres, comme s'ils avaient été en contact avec du pétrole. Les amas blancs sont peu inflammables. Ils se désagrègent sous la flamme sans prendre feu, même quand on les a desséchés. Ils contiennent 18% d'eau. M. Kozak a essayé, de plusieurs manières, de les faire retourner à l'état liquide avec des solvants, mais il n'y est pas arrivé. Ces polymères sont parfaits pour des utilisations industrielles parce qu'ils sont durables. Mais c'est justement ce qui pose problème sur le plan environnemental. Je travaille sur des polymères biodégradables qui seraient préférables à cet égard. Mutisme. Trouvera-t-on le coupable? Selon Mme Corlette, il devrait être possible, à partir des courants et marées connues dans la baie de Plaisance, de déterminer l'origine approximative du déversement. Selon ce que j'ai compris, dit-elle, les mesures d'Environnement Canada vont permettre de comprendre comment les masses blanches sont distribuées autour de cette baie et faire cette analyse de courant. En d'autres mots, si on sait où il y a plus de masses blanches, on peut analyser les courants et déterminer leur origine. Environnement Canada et Changement climatique, ECCC, refusent de confirmer qu'il a pris des mesures pour déterminer où il y a le plus de masses blanches dans la baie de Plaisance. Ces scientifiques poursuivent toutefois leur analyse des substances, nous répond le ministère par courriel. Comme il s'agit d'un dossier d'application de la loi ouvert, ECCC est limité dans l'information qu'il peut fournir pour le moment, écrit Eleni Armenakis, porte-parole d'Environnement Canada. L'histoire jusqu'ici. Début septembre 2024, des riverains de la baie de Plaisance, dans le sud-est de Terre-Neuve, ont commencé à observer la présence de mystérieux amas blancs sur les plages. Le gouvernement fédéral confie l'enquête à Environnement Canada. Fin octobre 2024, l'hypothèse de l'origine biologique est écartée. En savoir plus, source Civic Laboratory. 1,6% proportion des morues autour de Terre-Neuve ayant ingéré du plastique. 5200 morceaux par kilomètre carré, densité de la pollution plastique dans les eaux de Terre-Neuve. C'était « Le mystère des masses blanches élucidées », un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 novembre 2024 dans La Presse.
La ville aux 214 clochers ou aux 214 ruines? Un texte de Bernard Besancenot, paru le 15 novembre 2024 dans La Presse. Bernard Besancenot est bénévole actif à la paroisse Saint-Édouard. Montréal est connu internationalement pour être la ville aux 214 églises. C'est un patrimoine important et qui pose de nombreux défis. Certaines églises sont déjà en ruine. D'autres, construites plus récemment, ne sont pas d'une importance architecturale remarquable. Une grande majorité, toutefois, sont des bijoux du patrimoine montréalais. Architecture néo-gothique, art déco, néo-baroque, pour ne nommer que ces inspirations. Et sans parler de leur mobilier, leurs fresques, leurs vitraux, leurs orgues casavant en état de marche, leurs sculptures, etc. La fréquentation y est très variée. Si certaines peuvent accueillir le dimanche de 100 à 200 personnes, certaines paroisses ne sont remplies que de 20 ou 30 fidèles. Les têtes y sont de plus en plus blanches et de toutes les manières, les églises qui les accueillent ne sont, très souvent, ouvertes pour le culte que les samedis soirs et dimanches matins. Parfois, si on a de la chance, elles demeurent ouvertes en semaine pour quelques fidèles. Cependant, ces églises font partie du patrimoine et de la vie des quartiers. Pour les plus vieux, qui les ont financées à en vider leurs poches, elles ont accompagné les étapes de leur vie, du baptême à la mort. Pour les plus jeunes, elles ont accueilli leurs vœux de mariage, même s'ils n'étaient pas spécialement croyants. Les célébrations de Pâques et de Noël sont encore des traditions qui remplissent les églises, quand bien même ce serait pour faire plaisir à grand-maman ou pour entendre les chants traditionnels religieux. Il serait alors logique d'ouvrir ces locaux aux habitants des quartiers et, d'une certaine manière, de les rendre aux citoyens qui, nous le répétons, en ont financé tous les frais. Certaines pourraient, à titre d'exemple, devenir des bibliothèques, des théâtres, des lieux de danse, des musées. Le culte pourrait tout à fait avoir lieu dans leurs espaces loués, ce qui en soulagerait les divers responsables. Les différents ordres du gouvernement pourraient participer à l'achat de ces bâtiments pour y prévoir des espaces libres contribuant à l'offre de logements abordables ou pour l'accueil d'organismes communautaires. Il faudrait aussi pour cela que les organismes porteurs reçoivent de l'aide pour la requalification. Quant à la question de la rénovation des bâtiments patrimoniaux, il existe, heureusement, des subventions gouvernementales du Conseil du patrimoine religieux du Québec qui sont accordées si le milieu peut assumer 30 % du coût des travaux à réaliser. Mais ne nous y méprenons pas. 30 % pour une paroisse, ça peut être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers à quelques millions de dollars. Et malgré les dons, les possibilités de financement sont loin du compte. Ces sommes sont nécessaires quasiment annuellement et les coûts de construction ont augmenté ces dernières années. Le poids de ces travaux repose souvent sur une poignée de bénévoles qui ne sont ni architectes ni professionnels du bâtiment, sans expertise dans le domaine. Ils sont souvent désemparés devant l'ampleur de la tâche. Sans aide, ces personnes vont finir par baisser les bras et de nombreuses églises seront laissées à l'abandon dans un avenir rapproché. Sans une mobilisation citoyenne, Montréal deviendrait alors la ville aux 214 ruines. Le modèle de Saint-Édouard. À l'église Saint-Édouard de Montréal, les responsables ont choisi d'ouvrir les portes à la communauté. Chaque semaine, plus de 1000 personnes fréquentent les services offerts. Des organismes y offrent des services aux gens de la ville et organisent des activités diversifiées sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cours de tai chi, création théâtrale et musicale, plusieurs services du CLSC, services d'écoute et d'entraide, fêtes et rassemblements divers, pour n'en nommer que quelques-uns. En effet, les locaux vacants logent des organismes communautaires et culturels auxquels s'ajoutent les nombreuses locations occasionnelles. Par ailleurs, de nombreux concerts, des expositions, un service alimentaire hebdomadaire, un souper mensuel avec de la danse et qui touche plus de 120 personnes, un ciné social bi-hebdomadaire, une clinique d'impôts et un bazar donnent aussi vie au bâtiment. Malgré son dynamisme, Saint-Édouard fait aussi face à ses propres défis. Nous payons pour des années de négligence et il est difficile de remonter la pente en ajoutant ces réparations majeures à l'entretien habituel. Seulement cette année, il faut réparer le bas-côté qui est en haut de la porte rue Beaubien. Ce projet est directement lié à l'accès de l'église. Les citoyens et les organismes sont bien conscients de la nécessité de sécuriser une des portes afin de pouvoir encore bénéficier du bâtiment église et de tout ce qu'il comporte. Sensibles à ces enjeux, des citoyens se sont mobilisés dans le quartier pour rechercher les fonds nécessaires. Et si l'année 2022-2023 a permis de récolter 36 000 $, il en faudrait cinq fois plus. Sans aide plus importante des divers ordres de gouvernement ou de donateurs privés, l'Église devra fermer à moyen terme. Et cela touchera non seulement les paroissiens, mais aussi tous les acteurs du quartier qui y sont logés ou qui occupent de façon ponctuelle les espaces. Ce serait alors une immense perte pour l'ensemble de la communauté de la petite patrie. Pour la préservation de notre patrimoine et pour continuer à ouvrir les portes de ces monuments architecturaux montréalais, il est impératif de se pencher immédiatement sur l'avenir des églises que nous voulons inclusives, diversifiées, dynamiques et répondant aux besoins d'aujourd'hui. C'était la ville aux 214 clochers ou aux 214 ruines, un texte de Bernard Besancenot, paru le 15 novembre 2024 dans La Presse.
Haïti, lancement de Moinoué Cash pour promouvoir l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Un texte de la rédaction, paru le 16 octobre 2024 dans Alter Presse. En collaboration avec le Bureau du secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, BSEIPH, et la Société haïtienne d'aide aux aveugles, SHAA, la Fondation Anne Innove a procédé au lancement d'un nouveau projet intitulé « Moinoué Cash », auquel a assisté l'agence en ligne Alter Presse. Ce projet vise à promouvoir l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes en Haïti en leur fournissant des techniques efficaces pour détecter les billets de banque en circulation, selon les responsables. En Haïti, il n'existe pas de méthode fiable permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de vérifier les billets de banque, fait remarquer le président de la Fondation Anne Innove, Otniel Etienne. Le projet a permis de créer un outil permanent capable d'aider les personnes aveugles et malvoyantes à gérer leur argent en toute autonomie, fait-il valoir. Nous avons découvert une approche technologique utilisant la reconnaissance optique de caractère, ROC, et l'application Cash Reader, qui signifie lecteur d'argent. Cette application Android innovante permet de reconnaître les billets haïtiens par les personnes aveugles ou malvoyantes, explique-t-il. Une fois installée, l'application Cash Reader fonctionne hors ligne, sans besoin de connexion Internet. Une version iPhone est également disponible. L'application identifie les billets grâce à une base de données, comprenant les 8 billets haïtiens les plus courants, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gourdes. Une voix synthétique annonce le montant du billet dans la langue installée sur le téléphone, poursuit Étienne. L'application offre également un système de vibration différent pour chaque billet. Elle reconnaît les billets, mais pas les pièces de monnaie. Elle ne peut pas identifier si le billet est vrai ou faux. C'est une application payante, $30 américains. La version gratuite identifie uniquement les billets de 10 et 25 gourdes. Après le lancement du projet, une séance de formation a été réalisée à l'intention d'une vingtaine de personnes aveugles ou malvoyantes qui possèdent déjà un téléphone Android afin de leur offrir une licence à vie pour l'application. Par ailleurs, l'Union mondiale des aveugles, UMA, a profité de ce lancement pour annoncer la Journée internationale de la canne blanche, célébrée le 15 octobre de chaque année. La canne blanche représente un symbole essentiel d'indépendance, de sécurité et de mobilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'était Haïti, lancement de Moinway Cash pour promouvoir l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Un texte de la rédaction paru le 16 octobre 2024 dans Alter Presse.